J'étais sur place à Port-au-Prince parce que j'étais rentrée une semaine avant. J'étais théoriquement au traité des Nations Unies. J'ai quitté mon poste aux Nations Unies à la fin de 2009 et j'étais chez moi. Et vers 16h, tout a commencé à bouger. Tout a commencé à être secoué. Et j'étais chez moi, les murs se fissuraient. Nous étions trois dans la maison à nous précipiter dehors avec l'impression que le sol était un gigantesque boa qui bougeait. J'ai un arbre devant la maison qui était penché totalement et qui se redressait. Il y avait un étrange silence. Pas d'oiseaux, pas de chiens. Et puis soudainement, les chiens se sont mis à hurler à la mort. Et je me suis dit que c'était un tremblement de terre, évidemment. Bien que Haïti n'avait pas connu de tremblement de terre avant ça en un siècle. Mais je n'étais pas du tout rendu compte de l'étendue de cet énorme tremblement de terre que nous avons appelé Goudou Goudou en Haïti à cause de ce que ça avait créé comme émotion. Je ne suis pas sortie dans la rue, je suis restée à la maison et j'ai eu des gens qui arrivaient, couverts de poussière. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste ma maison, ce n'était pas juste mon quartier, c'était la ville, Pétionville, que j'habitais, qui était à peut-être 30 minutes de Port-au-Prince. Et au fur et à mesure, on entendait les gens hurler. Les gens hurlaient et priaient, parce que pour eux, c'était la fin du monde. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, nous étions tous dans la rue.
Vous n'êtes pas restée à la maison, vous n'êtes pas rentrée dans
la
maison ?
Non, non. Non, parce qu'on craignait, parce qu'il y avait aussi d'autres secousses qui ont succédé. Chaque 2 heures, chaque 4 heures, il y avait une nouvelle secousse. Et certaines ont atteint 5 sur l'échelle de Richter. Donc le sentiment, quand je suis descendue dans la rue, j'ai pas de nouvelles des Nations Unies, de mes anciens collègues des Nations Unies. J'attendais à dîner ce soir-là, Luis Carlos da Costa et Eddie Anabi, qui étaient les deux responsables de la MINUSTAH en Haïti. Quand je les ai pas vus arriver, bon, je me suis dit, bon, ils ont eu un contretemps, il y a eu des problèmes. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait une mission tout entière, 102 personnes, dans un immeuble qui s'était effondré sur eux. C'était l'hôtel Christopher qui s'était effondré avec le personnel des Nations Unies. C'est seulement le lendemain que j'ai su. Le lendemain, je suis descendue à pied, j'ai vu les corps. Des corps échelonnés le long de la route, couverts d'un drap blanc.
Tout le long de la route vers...
Vers Port-au-Prince. Et c'était les corps de gens qu'on tirait des bidonvilles. Et par respect, des gens qui n'avaient pas grand-chose prenaient un drap propre pour recouvrir les corps. C'était ce qui nous restait de dignité, de respect. Mais alors, au fur et à mesure que je descendais vers Port-au-Prince, je réalisais que c'était énorme. Des gens dans les rues, en train de hurler, de pleurer, de crier, de prier. Et 3-4 jours comme ça, à essayer d'aider les gens, il y a une solidarité haïtienne énorme et une solidarité de la MINUSTAH qui était l'organisme sur place qui avait une structure. Nous avions perdu toute l'infrastructure humaine, civile de la mission, mais tout de suite, la mission militaire a réagi pour essayer de retirer les corps. On a trouvé des survivants et les équipes de secours qui commençaient à arriver 3 jours après. Et 4 ou 5 jours après, on m'a demandé de rejoindre la MINUSTAH et j'ai repris service pour les Nations Unies tout de suite après.
La MINUSTAH qui était au cœur de la réponse finalement.
Au cœur de la réponse dès le début, puisque la MINUSTAH, parce que l'aide a commencé à arriver dès que l'aéroport a pu être ouvert, les possibilités de faire atterrir des avions. Et coordonner cette aide venant de tous les pays du monde a été une tâche que les Nations Unies étaient la seule à pouvoir faire ce jour-là. Ce jour-là et les jours qui ont suivi, pendant près d'un an, dans la mesure où l'État haïtien était décimé. Donc le gouvernement n'avait pas les moyens de réagir. Et c'est grâce à l'ONU qu'il y a eu des vies qui ont été sauvées.
Vous évoquez une situation horrible, catastrophique, d'une ampleur inimaginable, mais aussi des élans de solidarité entre Haïtiens, aussi avec la communauté internationale. Qu'est-ce que ça fait de vivre ces deux choses qui sont tellement opposées, même si elles vont de la main quelque part ?
Pour moi, regagner l'ONU, ça a été important pour moi parce que j'ai eu l'impression de sortir du sentiment d'impuissance presque totale. Le sentiment, bon, on aidait ici et là. Ma voiture a servi à transporter des blessés pendant 3-4 jours, mais c'était tellement petit. Être avec l'ONU a permis vraiment de pouvoir aider dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Ceux qui avaient survécu de la mission civile, on voulait les rapatrier. Ils ne voulaient pas, ils voulaient rester. Ils avaient perdu des gens proches, ils ne voulaient pas.
Il voulait être utile.
Il voulait être utile. Et c'est ce sentiment d'utilité que j'ai eu qui, personnellement, m'a permis de sortir de cette espèce de sentiment terrible d'impuissance dans lequel je me trouvais, personnellement. Parce que c'était aussi une façon de rendre justice aux gens qui étaient partis et d'aider les survivants.